Voilà. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur, évidemment. Merci pour tous les enseignements que la présidence de Vincent a fait. Et puis ça touche presque au même sujet, au même thème. C'est incroyable. Souvent, quand c'est la présidence de Vincent, on est en connexion sans le faire exprès. Mais je pense qu'avec les autres, ça va venir aussi. Je suis dans Josué au chapitre 23 et au verset 11. Josué 23, verset 11. Josué. Qui est Josué? Ah, c'était le bras droit de Moïse, avec Noun. Et c'est lui qui priait avec Noun et qui tenait le bras levé de Moïse pour que la mer rouge s'écarte, et qui a vécu dans le désert toutes les souffrances, toutes les difficultés que Moïse et les responsables du peuple hébreu ont connues. Toutes les révoltes, les divisions et tout ça, les attaques des peuplades ennemies dans le désert, ils ont assumé tout ça. Josué a été capable de dire devant tout le peuple, malgré qu'il y a des géants dans le peuple de Canaan, malgré qu'il y a énormément de choses qui sont contraires à la raison humaine, l'Éternel nous donnera le pays qu'il a promis. Avec Noun, ils avaient donc cette force de foi, cette foi pleine de force, de croire dans la volonté de Dieu, dans le programme de Dieu. Et c'est pour ça que Josué était le conducteur du peuple hébreu pour passer le Jourdain et conquérir la terre de Canaan, qu'on appelle Palestine ou Israël. Josué, maintenant vous avez eu assez de temps de vous retrouver, chapitre 23, verset 11, « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui nous s'adresse à nous tous les jours. Ce verset-là s'adresse à nous tous les jours. Il faudrait le connaître clairement, dans le cœur, dans l'âme, en profondeur. Pas rien que l'écorce cérébrale. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elle par des mariages, si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés, des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Vous voyez ici, fouet, épines, etc., donc souffrance, difficulté. Il y a quelques jours, le président de la République française a dit: nous avons un ennemi qui veut détruire l'État. Eh bien, pratiquement, et oui, parce qu'on a mis Dieu de côté, on a mis l'Évangile de côté, et voilà. Envahi par d'autres choses, c'est comme ça qu'Israël l'a vécu. Hein. Mais maintenant, c'est l'Europe qui le vit. Eh oui. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations, c'est clair. Alors, on y reviendra. Verset 14, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. » Vous avez vu ce que c'est comme belle phrase? Notre Josué veut dire quoi? En français, plus simple. « Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. » Ça veut dire quoi? Ben oui, je vais décéder. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Ah, ça c'est clair, hein? Boum! Vous pouvez lire le reste, c'est... On ne joue pas avec Dieu. Donc ça rejoint le thème de tout ce qui a été annoncé, préparé par
Vincent.
Bon, Josué rentre, passe le Jourdain, Jéricho, ville fortifiée, eh bien, il la contourne, les Hébreux, Josué la contourne 7 fois en silence, 6 fois en silence. Et puis le 7e jour, avec les trompettes, 7 fois, et tout s'écroule et la ville est prise. Et la ville était déjà pleine de terreur et savait qu'ils étaient perdus, foutus, comme on dirait. Sauf Rahab, la prostituée, et ceux de sa maison, parce qu'ils avaient une écharpe rouge à la fenêtre, qu'ils ont été épargnés parce qu'ils avaient accueilli les espions envoyés par Josué. Donc, dans cette ville, il y avait une terreur vis-à-vis de Dieu, du Dieu d'Israël. Elle viendra sur la terre. Il y aura une secousse en disant, purée, qu'est-ce qui nous se passe? Pourquoi est-ce qu'on a... on est sans Dieu? Pourquoi est-ce qu'on est sans Christ? Voilà. Elle viendra. Les tribulations, elle viendra. Ce Josué qui voit Jéricho tomber par la main de Dieu, on retrouve toutes les ruines de cette ville. Il y a un autre Jéricho, à plusieurs kilomètres de là, dans la vallée des palmiers, il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup d'eau, c'est le Jéricho actuel, qui a été reconstruit un peu quelques dizaines d'années plus tard là. Alors, ce Josué qui doit conquérir ce pays n'a pas d'armes. Contrairement à tout ce qu'on se met dans la tête, il n'aura pas de char, il n'aura pas de missiles, il n'aura pas de fusil. Bon, reportons-nous, il n'a pas d'épée, il n'a pas de fourche, il n'a pas de pioche, il n'a pas de sabre, il n'a pas de couteau, rien. C'est un troupeau de loqueteux qui arrivent du désert et qui ont des moutons et des brebis. C'est un troupeau de loqueteux. Alors, je vous lis dans Juges chapitre 6, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, bien sûr, c'est régulier, c'est cyclique, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian, donc les Arabes, pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël, pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, il marchait contre lui, campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et paf, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Vous retrouvez ça dans Apocalypse chapitre 9, 10 et 11. À un moment donné, c'est l'invasion de Ézéchiel 39. C'est les mêmes, ils vont recommencer. Mais ce qu'il y a, c'est que cette fois-ci, quand ils attaqueront, ils vont échouer. Ah là, ils vont se casser la figure. Clairement, Dieu va faire tomber des grêlons sur leurs armées, c'est knock-out. Naturellement, cette fuite dans les ravins, dans les cavernes et tout ça, à l'époque où Israël sera attaqué, ils auront la même terreur. Parce qu'ils sont confinés à leur ordinateur, leur banque, etc. Ils sont devenus riches depuis 70-80 ans. Très riches. Alors, chaque fois qu'on a trop, on oublie Dieu. Alors, ils vont se cacher. C'est Luc 21, verset 21. Je ne vais pas le lire. Mais c'est annoncé, ils vont se cacher. Jusqu'à un moment donné, dire la terreur dans l'âme, mais c'est l'Éternel qui nous a délivrés encore. On aurait pu encore être laminés, complètement détruits. Ils nous ont encore, avec les grêlons, il nous a protégés. Donc Luc 21. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que je voudrais vous montrer un texte où réellement il n'y a pas d'âme. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19. Le pire, c'est la buée sur les carreaux. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19. Alors, j'explique pourquoi. Parce que ce troupeau de loqueteux, il va sur les collines, avec les brebis, les chèvres. C'est les cailloux, c'est aride, il pleut de temps en temps, mais voilà. Dans la vallée sévère, il y a des ressources et des ruisseaux, il y a des champs, il y a de la culture, il y a des arbres fruitiers, il y a du miel, il y a des abeilles, tout ce que vous voulez. Et, puisqu'il y a des ruisseaux, il y a des forges. La forge avec la petite roue qui fait tourner, des soufflets, des forges. Et les Cananéens ont des armes, ils ont des outils, parce qu'ils sont forgerons. comme on trouve à Buzenol, à Montauban, si vous visitez toutes nos vallées, on avait ce système-là pendant plusieurs siècles. Et la prospérité de la région du sud ici a tellement intrigué que le roi de Suède est venu chercher des hommes pour faire la même chose en Suède et que le tsar de Russie a fait la même chose. Il en a pris là-bas pour développer sa métallurgie, surtout les armes, surtout la puissance militaire et coloniser les alentours. Toujours la même chose, rebelote. Alors, dès qu'on a des armes. Alors, premier livre de Samuel, chapitre 13, verset... C'est pas facile à gabuer. 19. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyou, donc la pioche, quoi, la houe, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons, il fallait aller chez eux. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Deux, trois, en face de milliers de gens qui sont armés. Un poste philistin vient s'établir au passage de Micmash. Quel Micmash, hein? On dit parfois quand il y a un bazar vient de ça. Alors, vous rendez compte? Et ils ont les autres en face qui viennent mettre un poste de contrôle et qui leur disent, vous allez voir, ne relevez pas le nez parce que vous êtes couilles. Ils avaient tous les moyens de les éliminer. Alors, humainement parlant, plusieurs fois, il va y avoir comme ça des avancées. Les Hébreux vont aller et espionner les autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a eu des miracles. Des pluies de grêlons, des grêles, des choses invraisemblables qui ont désorganisé les Cananéens et qui ont permis aux Hébreux de s'en sortir et même de gagner. Vous lisez chapitre 14 et vous aurez compris. C'est pas mon but du tout. Mais vous lisez, ça vaut la peine. Bon, maintenant, je vais retourner dans Juges, chapitre 6. Au chapitre 6, verset 5, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Ça, vous avez le pendant dans l'Apocalypse, hein, je vous le dis. Donc, c'est quelque chose de... Il n'y a pas besoin d'islam, hein. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est atavique. C'est une saine tradition guerrière. Une folie guerrière cyclique de toutes ces régions pour envahir le pays d'Israël. Alors... Au verset 4, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ah, nous y voilà. Est-ce que nous avons l'habitude de crier à l'Éternel, dans le secret de notre chambre, lorsque nous sommes sur le lit et que nous ne dormons pas, lorsque nous sommes en train de faire la vaisselle, lorsque nous sommes dans l'auto, même quand on est en compagnie des autres, qu'on les entend, on peut avoir une distance spirituelle et crier à l'Éternel. Pendant qu'on voit la scène qui est devant nous là, les gens qui sont là, et ne pas s'inonder là-dedans, être submergé par tout ce qu'on voit, on entend là. Là, à 50 cm, à 2 mètres, on peut avoir cette distance. C'est la vie spirituelle, ça. Et crier vers l'Éternel. Regarde Seigneur, je te demande de les bénir, c'est impossible, je ne peux rien faire. Regarde, ils sont dans le train de ce monde, etc. Et moi, protège-moi. Et puis Seigneur, si je peux faire quelque chose vis-à-vis d'eux, éclaire-moi, montre-moi. Où sera la victoire du sang de Jésus dans leur vie? Seigneur, montre-moi. On peut dire parfois ça des dizaines de fois avant tout d'un coup que Dieu réponde, on en voit un dans la bande là qui bouge et qui change. Parce qu'on a crié à l'Éternel. Et si on ne crie pas, pas de récolte, hein, spirituelle. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Alors, ça y est, bilan désastreux au niveau spirituel. Quand ils ont crié, Dieu leur montre leur carence, leur désaffection spirituelle. Et il est clair qu'on n'aime pas ça. Il est clair qu'on n'aime pas ça. Mais si on l'écoute, on prend conscience de ça, la repentance, Dieu l'accepte. Le mouvement du cœur où on se remet en question et on ne fait pas, on ne fait plus comme avant. On ne pense plus comme avant. On ne passe pas l'éponge sur tout ce qu'on voit, on entend. Quand quelque chose me déplaît dans mes rencontres, dans tout, pas forcément que je vais le dire à la figure des personnes. Il y a un moment pour ça. Un moment pour ça. Tôt ou tard, il faut le demander à Dieu. Montre-moi le moment. Alors là, il ne faut pas faire... il faut pas faire marche arrière. Mais ce qu'il y a, parfois, on peut devoir attendre. Mais on ne doit pas passer l'éponge, on ne doit pas dire « Vous avez tous raison, faites comme vous voulez, c'est très bien, j'aime bien tout ce que vous faites. » Ça c'est. Alors là, vous ne criez pas vers l'Éternel, vous ne souffrez pas, vous mettez de la pommade sur tout ce qui est alentour de vous. Alors, vous êtes dans la situation d'Israël. Vous êtes dans la situation d'Israël, dans ces versets-là, du verset 9 à 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térubin d'Ophra, qui appartenait à Joas, la famille d'Abiézer, Gédéon son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc ils sont en cachette, ils font du blé en cachette. Ils le cachent en cachette. Parce que les autres, ils ne veulent pas ça. D'ailleurs, il n'y a pas de moulin. S'ils ont du blé, il va falloir le broyer à la main. Hein. Tout le monde, hein. Pour faire de la farine et du pain. Ce qu'il y a, c'est que l'ange éternel, si on voit d'autres textes, c'est probablement Christ, hein, la deuxième personne de la Trinité. Alors l'ange vient et, verset 12, l'ange éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il livre son découragement, et au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Donc, cette force que tu as, ben, il n'a pas de force. Va avec cette force que tu as. Mais Dieu ne se moque pas de lui. Pourtant, Dieu ne se moque pas de lui. Beaucoup de fois, nous sommes sans force, et pourtant Dieu me dit, et j'espère qu'il vous le dit, va avec les forces que tu as. Ça veut dire, comme Paul, dans 2 Corinthiens, va dans ta faiblesse, et moi je me glorifierai. Ma grâce seule me suffit. Comme quoi, Dieu bénit la foi. Il nous invite à la foi. Alors, 2 Corinthiens, il ne faut quand même pas oublier ce texte, qui est quand même fondamental dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. 2 Corinthiens. Bon, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Oh, le buis. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Ce démon qui me soufflette, hein, qui me jette des maladies. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je fais l'expérience de l'intervention de Christ. Et je ne fais pas l'expérience de « je suis un super-héros ». L'expérience chrétienne, c'est une expérience de faiblesse, de pauvreté. De pauvreté, ah, c'est toujours dans le 2 Corinthiens, j'étais un peu trop vite pour abandonner les pages. Je vais vous montrer qu'on a quelqu'un qui nous a donné le modèle. C'est 2 Corinthiens, et ça c'est très important pour nous. Chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, donc sur terre, durant 33, 35 ans, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, ben oui, au ciel, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichi. Par sa pauvreté, pendant 33, 35 ans, nous sommes enrichis. Non mais, regardez le verset, il faut le méditer, il faut le coller au mur. Et vous avez la même chose dans Philippiens 2, verset 7. Mais je ne vais pas le lire, hein. Philippiens 2, verset 7. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je retourne dans Juges, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as. » Ben, écoutez, si réellement vous êtes réaliste, vous allez dire, « Seigneur, je ne suis pas capable, tout ça, je ne vois pas. C'est le bon moment pour compter sur lui et puis compter sur soi-même. Alors on sort du péché d'Adam et Ève. L'autosuffisance, la vanité personnelle. Juges 6, verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Ça y est, il se figure que c'est lui qui va délivrer. Mais non, c'est Dieu. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ben oui, hein. J'ai appris un jour, par un homme, peut-être que je le reverrai un jour, un homme qui est venu ici à l'église et puis après qu'il y avait une folie, une rage sur moi, le pauvre petit pasteur de Gomery et son église avec, hein. Et c'est un monsieur qui habite en France. Je me suis dit, mais il n'a rien compris. Il vaut mieux être pauvre et être en Christ que d'être vaniteux et ne pas vivre de Christ et de paraître un grand pasteur. Il ne faut pas se tromper. C'est la même chose pour Josué. Il va devoir, Josué, oui, il va devoir se remettre en question. Remettre en question, comme nous tous.
Gédéon, pas Josué. Gédéon,
excusez-moi, Madame Bayeux. Alors, il est persuadé que c'est lui qui a la mission de sauver Israël, alors que, simplement, Dieu va lui confier une tâche, mais c'est Dieu qui délivre Israël. Ça a toujours été comme ça. L'existence d'Israël depuis des siècles et des siècles, c'est un miracle de Dieu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu, pas la puissance des Juifs. Ils se sont fait laminer combien de fois ? Alors, il veut un signe. Ah oui, il veut un signe. Donc, il veut avoir un signe, oui.
Papa,
il va même en avoir plusieurs.
Papa, tu peux laisser ton nez au-dessus, comme ça, et tu mets devant ta bouche.
Gédéon lui dit, l'Éternel, au verset 16, lui dit, « Je serai avec toi et tu te battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi. » Ça, c'est fondamental. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 28, hein? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Verset 18. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. Et Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ça y est, il veut des preuves que Dieu certifie ce qu'il vient de lui dire. Pourtant, il a l'ange de l'Éternel devant lui. Hein? Imaginez. C'est pas n'importe qui a eu ce cadeau-là. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. J'ai dit, entra, prépare un chevreau, fit un ifa de farine, des pains sans levain, ça prend du temps de ça. Dieu est patient, hein. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, elle lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Qu'est-ce qui se fait? L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Il fit ainsi. L'ange éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange éternel disparut de ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la maison d'Abiézer. Alors, il y a un deuxième signe, je vous invite à le lire, du verset 25 au verset 35. Je vous invite à le lire, je ne le lirai pas ici. Nous sommes dans Juges, chapitre 6, verset 25, et vous allez voir qu'il y a encore un signe. Ça va? Alors, nous allons au verset 36. Il y a plein de signes, hein? Si vous regardez bien dans ces chapitres-là, il y a plein de signes pour un homme qui s'appelle Gédéon. Ce que je veux vous faire comprendre, si vous analysez ça, vous les lisez plusieurs fois dans la semaine, vous avez eu et vous recevez encore beaucoup de signes. Mais comment ça se fait qu'on reste comme on est et qu'on ne s'améliore pas souvent? Il y a quand même un problème. Eh bien, on le voit là. Alors, je prends le signe de la toison au verset 36. Mais je vous invite vraiment à relire tous ces textes. Hein. Sinon, c'est... Je ne peux pas éviter votre responsabilité. Elle vous appartient. Juge 6, 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Là où on bat le blé, hein, on ramasse le blé, c'est propre. Hein. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que c'est que la rosée? La rosée, c'est quand il y a de l'humidité dans l'air et que durant la nuit, un vent froid passe ou le sol est froid et cette humidité se... ne peut plus rester dans l'air dans une densité aussi importante. Il y a une partie de l'humidité qui se condense, qui donne des gouttes d'eau et ça s'appelle la rosée. Donc ça dépend de la quantité hygrométrique de l'air, c'est-à-dire de la quantité d'eau contenue dans un litre d'air. Bon, eh bien, il va y avoir de la rosée. Il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée. Il donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Alors, il faut analyser quand même. Je voudrais seulement faire encore une épreuve. Une épreuve pour qui?
Une épreuve dure, quoi.
Il veut des signes,
quoi.
Mais les amis, il faut quand même qu'on se rende compte. Souvent, on provoque Dieu, il est patient. Hein. S'il était revanchard, oh là 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 là. On l'a mis souvent, on le mettra encore à l'épreuve. Bien sûr. Et regardez la patience de Dieu. C'est pour ça que dans l'épître de Pierre, le verset que vous avez vu là sur l'écran tout à l'heure, le temps de la patience de Dieu, afin que tout arrive à repentance. Comprenez maintenant Pierre, il n'a pas sorti ça comme une ânerie. Toute la Bible enseigne que Dieu est patient avec les pécheurs. Alors, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. Donc, la toison reste sèche, ben oui, Dieu va mettre un brasero en dessous, des braises, ça va chauffer, ça sera sec, il n'y aura pas de rosée. Mais non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui justifie qu'il n'y a pas de rosée sur la toison, là? Il y en a partout, pas là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu dirige le climat. Il dirige la quantité d'humidité au litre d'air. Il dirige la météo. Dieu dirige les événements climatologiques. C'est ça qu'il faut voir derrière. Dieu a la maîtrise. Dieu le contrôle, le gouvernement divin sur toute la nature. Et quand il n'y a pas de rosée, pendant 6 mois, il n'y a quasiment pas plu. Nos légumes, ils avaient de la rosée tous les jours au matin. Et vous pouvez voir, hein, les courgettes et les potirons, pendant la nuit, ils ouvrent leurs feuilles comme ça. Et alors, la rosée se pose partout et elle coule le long de la tige. Et combien de légumes se mettent dans cette position-là, même des fleurs? Et l'eau va à la racine. Ah. La nature fait confiance à Dieu, elle tend ses mains. Et nous? Alors, la divine providence est exprimée par l'attitude de la nature, bien souvent. Bien souvent.
Oui, oui.
Vous savez, il y a plein d'oiseaux dans les haies ou champs. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas crevé de soif? Comment se fait-il qu'ils ne sont pas morts? Ça nous arrivait de mettre parfois un petit bac d'eau, parce qu'on montait avec des citernes d'eau, un petit bac d'eau pour qu'ils y aillent. Oui, mais il y en a plein dans les haies là. D'année en année, il y en a plus, de toutes les sortes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ça, c'est mon grand-père, mon père qui a vu ça, puisqu'ils allaient dans la nature très tôt, à 5-6 heures du matin, ils y étaient déjà, c'est pas comme nous. 4 heures parfois. Eh bien, les oiseaux vont sur les plantes et puis ils boivent la goutte d'eau de rosée. Tic! Et vous savez quoi? Même les araignées et les fourmis. Ah! Si mon grand-père, mes tantes, ne m'avait pas enseigné tout ça, je serais comme un bœuf qui ne regarde la nature que par la télévision. Regarder la télévision et connaître la nature par la télévision, c'est connaître le dixième de la nature. Quand vous avez des gens comme ça qui ont vécu dans la nature et qui vous enseignent ça, vous connaissez la providence divine qui subvient aux besoins de la nature et de l'homme. Ça, c'est différent. C'est pour ça que les paysans, quand il a fait chaud ça, dimanche, jour et nuit court, ils ne connaissent plus rien de la providence divine. Ils pensent que tout repose sur leur force, sur leur business, leur organisation. Ça, c'est une société qui méprise Dieu, même si elle ne le comprend pas. Elle méprise Dieu. Et elle offense Dieu. Alors ici, nous avons clairement, dans cet événement-là, quelque chose de très qui nous enseigne, c'est que Dieu est à la maîtrise du climat, de tous les phénomènes, c'est lui la providence pour la nature. Verset 40, Dieu fit ainsi cette nuit-là. Vous pouvez aller voir, non, je ne vous le dis pas, je n'irai pas lire. Job 38, verset 28. C'est là encore un enseignement de ce genre-là. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. C'est comme si moi je sortais, il douche. Mais je veux savoir si, quand je vais à Dun-sur-Meuse, dans une famille où il y a des manifestations bizarres, des meubles qui bougent et des tas de trucs, avant de partir, je suis là dehors. Seigneur, hein, si je sors dehors, il pleut partout, mais il ne pleut pas sur ma tête, je suis sec, c'est que je peux y aller. Hein? Et puis je rentre, je tourne en rond ici, je prie, un quart d'heure après, hein? Je ressors, je dis, Seigneur, je veux. Il ne pleut plus nulle part, mais il me tombe sur moi la douche. Badaboum. Alors je sais que je peux aller d'un sur mieux visiter les gens. Non mais ma parole. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes tellement incrédules et que nous jouons tellement avec Dieu comme ça? Bon, même il a fallu des années pour que je me rende compte que quand le Seigneur construit notre foi, à force qu'on a manqué de foi, à force qu'on a joué avec Dieu, on se rend compte, on a honte. Et puis, on grandit dans la foi, on grandit dans la relation avec lui. Et à un moment donné, ce qui se passe, « Seigneur, si tu veux que j'y aille, j'irai. Mais Seigneur, quel est le signe que tu me donneras ?» Le signe, hein, c'est toujours ceci. Une heure, va dans ta chambre une heure. Si tu ressors au bout d'une heure en paix, tu peux y aller. Pas la paix psychologique, hein. La paix, une vraie, qui peuvent dire n'importe quoi, il peut se passer n'importe quoi là-bas où je vais. Alors, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai, ma grâce te suffit. Retenez bien ça pour Paul, j'ai voulu aujourd'hui vous faire comprendre ça, c'est pas si simple que ça. Il faut faire attention, parce que nous sommes souvent à côté de nos ponts, nous ne faisons pas, nous ne sommes pas dans la foi telle que Dieu veut. On a une foi, mais ce n'est pas celle que Dieu veut. Alors, les vierges folles et les vierges sages, 5 ont une lampe, ont de l'huile, il y a une mèche, c'est allumé, elles ont la lumière. 5 ont la lampe, pas d'huile, pas de mèche, pas de lumière. Que choisissez-vous d'être? Qu'est-ce que vous choisissez d'être tous les jours, devant Dieu et devant les hommes? Ah, les amis. Alors, notre brave Gédéon, qui est un homme comme tout le monde, comme nous, qui a des signes puissants, il y a encore un signe. C'est assez intéressant que vous lisiez tout, je ne peux pas raconter. Mais il va à la source de Harod, chapitre 7, verset 1. J'étais à voir la source de Harod. Il y a la montagne de Guiboa, c'est très élevé, hein. C'est couvert, c'est forestier, c'est là-bas au-dessus que Saül, poum, sur la lance, hein. Le suicide de Saül et tout, et puis après les Philistins, les Cananéens ont pris les têtes et les ont mis dans le temple de Beth-Shéan. J'ai été voir le temple de Beth-Shéan où les têtes avaient été mises. C'est assez impressionnant. C'est au bord du Jourdain, Beth-Shéan, c'est à 100 mètres du Jourdain, la frontière jordanienne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, à cette source, au pied de la colline, il y a une source qui coule. Mais qui coule, c'est un ruisseau qui sort du sol. Hein? Et ça part, et ça se diffuse dans toute la plaine, et il y a plein de roseaux qui poussent. Mais des grands roseaux, les amis, à un mètre plus haut que ça. Alors, il y a des roseaux verts, et il y a des roseaux secs, forcément. Parce que tous les ans, ça se renouvelle, mais les roseaux secs, c'est dur, ça reste debout. Et donc, quand ces hommes-là, les 300 qui vont avancer, les 22 000 qui ont peur, ils retournent. Vous lirez le texte, ils retournent. Et puis en plus, il y en a encore 600. Allez, hop, ils font encore déblayer. Qui boivent l'eau? Ceux qui boivent debout comme ça, je l'écarte. Ceux qui boivent en se mettant à genoux ou dans l'eau, allez, hop, déblayer. Je ne veux pas que tu aies confiance dans les forces de ton armée. En plus, il n'y a pas d'armes. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'armes. Ils ont un pot de terre cuite avec une torche dedans. Et quand ils vont... Écoutez, j'ai vu le terrain, plus loin, la colline, c'est comme la côte de blé là-bas, la colline de Yisraël. Hein? Alors, ils rampent, les joncs sont là-bas, plein dans tout la vallée, il y en a partout. Au-dessus, il y a tous les guerriers arabes, avec les chameaux, les chevaux, l'armée, les armes et tout, qui s'apprêtent à faire un carton au matin. Ils avancent à quatre pattes, à croupes, tout ce que vous voulez, dans les joncs. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un corne de bélier, il sonne, ça résonne, parce que c'est l'endroit qui est le plus étroit de la vallée de Israël. Ça résonne. Il suffit d'y aller et de crier un bon coup, ça résonne. Donc ça amplifie. Sans électricité. Ça amplifie. Et, deuxième chose, la torche, dans les joncs. Un ouragan de feu qui monte à la colline. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent après. Et qu'est-ce qu'ils crient? Épée de l'Éternel. Et ils n'ont pas d'épée. Franchement, vous allez me dire, mais ils sont givrés. Ils sont maboules. Oui. Bon, ben, ils n'ont pas d'épée, ils n'ont qu'une cruche, et ils la cassent. Quand ils la cassent, ça fait un bazar énorme. Et le feu, qui commence à grandir, 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 et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se trucident entre eux. Quand ils arrivent, ils sont tous étendus. Alors, les amis, devant toutes les difficultés que nous avons, est-ce qu'on va toujours compter sur nos propres forces? Est-ce qu'on va toujours en éduquer comme ça? Ou est-ce qu'on va compter que notre faiblesse est salutaire? Que notre petitesse est ce qui plaît le mieux à Dieu? J'abaisserai celui qui est élevé, j'élèverai celui qui est humble. Regardez avec David, j'ai visité l'endroit où David, la bataille de Goliath, je vais tout finir. Et dans cette vallée-là, il n'y a que des pierres plates cassées dans les champs, partout. D'un côté, on voyait l'endroit où avaient été les Philistins, et de l'autre côté, les Hébreux. Les Philistins avaient des boucliers, des lances et tout. Les autres, des frontes, quelques fourches en bois, des trucs pareils. Et c'est quand même bizarre, c'est que les Philistins n'attaquaient pas. Alors, j'ai un peu étudié l'art de la guerre dans les tribus anciennes. Même, tout près de Salonique, à 15 km de là, dans une vallée, quand l'Empire romain s'est divisé, il y avait Octave et Pompée, je ne sais plus, deux généraux qui voulaient être l'empereur. Ils avaient 150 000 hommes de chaque côté. Ils ont fait un camp. Ils n'osaient pas s'affronter. Ils s'insultaient tout le temps, tous les jours. Et j'ai étudié ça, j'ai lu des livres, j'ai regardé sur des films. C'est ça qu'ils faisaient, les Philistins et l'autre. Ils s'insultaient. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Flagada, déprime. Complète déprime. Complètement dans les chaussettes. Et puis alors, les autres attaquent. C'est à celui qui observe le moment de faiblesse de l'autre. Le moment de faiblesse de l'autre est salutaire pour celui qui veut gagner. Alors, ce que j'ai vu, c'est que les grands costauds nés du paysan Isaïe, les sept fils, comme tous les autres, ne bougeaient pas. Ça faisait 30 à 40 jours qu'ils étaient là en face de l'autre à s'insulter et tout. C'est un art de la guerre qui se faisait dans toutes ces régions-là, même dans certaines régions d'Afrique, entre les tribus très puissantes. Alors, il arrive un petit maigrelet qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Mais ils sont en train d'insulter l'armée de l'Éternel. L'armée, il n'avait pas beaucoup d'épées. Ils sont en train d'insulter l'Éternel et vous ne bougez pas. Alors, il va trouver le roi Saül et il dit « Laissez-moi affronter Goliath. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend dans le ruisseau, j'ai été voir le ruisseau, et dans le ruisseau, il y a des petits cailloux ronds, effectivement. Dans les champs, il n'y en a pas. Dans le ruisseau, il y en a. Ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Ben oui, quand il y a les torrents, la pluie, les pierres, ça tourne, ça fait des galets. Alors, il prend 3-4 petits cailloux, puis il avance, et l'autre, naturellement, rigole. Et zoom, tac là, le crâne cassé. Alors, on peut dire que c'est de la blague? Eh bien, chez les Maasai, en Tanzanie, au Kenya, dans ceux qui élèvent les chèvres, les moutons, ils sont dans des régions avec des montagnes, et au-dessus des montagnes, ils mettent toutes des épines, ils font genre des casses, et puis ils sortent leurs brebis, leurs chèvres, parfois pour plusieurs jours, ils vont à 20-30 km dans les herbages. À partir du moment qu'un gamin Maasai, parce qu'il y a des lions et des ours, hein, dans ce pays-là, des lions. Et ce n'est pas de la rigolade, les lions, surtout les lions. Eh bien, quand le gamin sait viser juste avec la fronde, tac, plusieurs fois d'affilée, sans jamais, il peut garder, il part toute la semaine, 15 jours avec les troupeaux. Donc l'histoire, j'ai vu ça sur Arte, l'histoire de David est réelle. Le petit maigrelet qui casse la tête aux géants, qui a des armures, et les Philistins qui étaient surarmés, qui fuient en débandade. L'histoire d'Israël, c'est l'apprentissage de la faiblesse et de la victoire de Dieu. L'histoire de Jésus-Christ à la croix, pendant 33-35 ans, c'est l'histoire de la faiblesse et l'apprentissage de la victoire à la sortie du tombeau. Et la puissance de Christ est un attribut divin très puissant. La puissance de Christ est infinie. Au fur et à mesure du ministère, au fur et à mesure de ma vie, je me suis rendu compte que plus je me confiais dans la puissance de Christ et plus je considérais ma faiblesse, plus je pouvais aller chez certaines personnes qu'autrement, logiquement, je ne devrais pas y aller. Donc hier, quand je suis rentré chez ces personnes, je vais marcher. Tiens, c'est pas la porte en dessous, c'est au-dessus, il y a un escalier, je monte. Aïe, ouille, une douleur dans le mollet, mais comme si on m'avait lancé un couteau dedans. Mais j'avais dit, juste avant, en passant la barrière, « Seigneur Jésus, je t'en prie, passe devant moi. Passe devant moi, Seigneur. Passe devant moi, ils ont besoin de toi. C'est toi qui dois régler leurs problèmes, pas moi. » Alors j'avance, j'avance, tac! J'étais comme ça. J'ai monté tous les escaliers comme ça, je suis arrivé, et puis on a prié, chanté, les enfants m'ont sauté dans les bras, ils ne me connaissaient pas, on a parlé du Seigneur, j'ai lu la Bible, on a prié. J'ai dit maintenant, qui est le plus attaqué dans la maison? Qui a mal à la jambe gauche, à droite? Ma femme m'a dit, c'est moi. Puis elle marchait, pour que je voie, elle marchait vraiment. J'ai dit, sœur, le Seigneur voulait me faire comprendre votre souffrance. Je ne me marre pas. Ça fait très mal. Et je comprends votre souffrance. Vous savez que le Seigneur donne la compassion. C'est-à-dire, il permet de souffrir avec l'autre. Il n'y a pas que les manifestations diaboliques dans votre maison. Il y a votre souffrance à vous. Le Seigneur est plein de compassion. Et quand on le sert, il nous donne la même compassion. Mais on ne choisit pas. Ce n'est pas du sentiment. À un moment donné, la souffrance que vous avez, je la porte. C'est comme ça que Paul disait, je pleure avec ceux qui pleurent, je souffre avec ceux qui souffrent. Mes amis, plus vous avancez dans la vie avec le Seigneur, plus vous vous confiez dans la puissance du ressuscité, plus vous connaissez votre faiblesse et votre nullité, plus vous admettez que le Seigneur doit passer devant vous, dans toutes les circonstances. Pas celle qu'on choisit, dans toutes. À ce moment-là, vous allez avoir des signes que Dieu vous montre des choses que vous ne verriez pas en temps normal. Avoir mal à la jambe comme ça, c'était pas marrant. C'est à peine si je pouvais monter l'escalier. Et ça n'avait rien à voir avec mon genou, parce que mon genou va beaucoup mieux. Alors les amis, vous avez envie de vivre avec le Seigneur Jésus. Comme l'apôtre Paul l'a dit, vous vivez en Christ, la résurrection de Christ. Mais vous vivez en Christ les souffrances de Christ. Est-ce que vous acceptez les deux? Voilà le chemin du chrétien. La puissance du ressuscité en moi et la faiblesse de Christ en moi. Il y a les deux. Et dans sa faiblesse, Jésus s'est approché de tout le monde. Il avait compassion de tous les pécheurs et il portait leurs souffrances, leur iniquité, leurs blessures, leurs meurtrissures. Pourquoi vous n'en porteriez pas un peu avec lui? Puisque Paul le dit que c'est son chemin. Le chrétien qui veut une vie dans le velours, dans le divan, qui marche toujours bien comme ça, il l'a décidé, et il ne comprend pas ce que Jésus a encore vraiment pour lui réservé. Le vrai chemin du chrétien s'apprend tous les jours. Méditez la Bible, c'est ça que je voulais aujourd'hui vous dire. Méditez la vie de Christ, la faiblesse et la puissance ensemble. Quelque chose d'inconcevable pour la raison. Inconcevable pour la raison, mais concevable par Dieu en Christ et dans ceux qui lui appartiennent. Amen.
Amen.